À l'Église évangélique de la Croix-Rousse, nous voulons être sel et lumière, comme nous le dit le Seigneur dans Matthieu 5. Ça veut dire que nous voulons être en Christ, ensemble, en avant. En Christ, c'est vivre l'Évangile. Ensemble, c'est vivre l'Église. Et en avant, c'est vivre la mission. Par la grâce de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, nos vies sont renouvelées. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a tout accompli, c'est-à-dire que dans tous nos manquements, Jésus est là, nous pouvons nous appuyer sur lui. Jésus est également le second Adam, c'est-à-dire que nous ne sommes plus rattachés à l'humanité pécheresse, nous sommes rattachés à Jésus-Christ, notre frère, et nous sommes une famille attachée à lui.
L'Église est au cœur du plan rédempteur de Dieu. L'homme, créé à l'image divine, est conçu pour la communauté. Et Dieu emploie ses rassemblements de croyants pour répandre son amour dans le monde et étendre son royaume. À l'Église évangélique de la Croix-Rousse, nous voulons être une communauté authentique, quotidiennement transformée et renouvelée par l'Évangile. Nous faisons partie de l'Église mondiale et à ce titre, nous œuvrons, travaillons en interdépendance avec d'autres églises. Notre vision est globale, mais notre ministère reste profondément ancré et adapté au quartier de Lyon.
Notre vision ici pour l'avenir à l'Église évangélique de la Croix-Rousse, c'est de partager la bonne nouvelle de Christ pour mieux servir notre quartier et même le monde entier. On a vécu une belle histoire avec notre Christ et maintenant on voudrait bien partager cette belle histoire avec une vie extraordinaire avec lui. Rejoins-nous pour découvrir toi-même cette vie en Christ.
Bravo Taylor, et merci pour ces dons. Alors ce soir, si c'est votre première fois, je suis Daniel, je suis partie de l'équipe pastorale. J'espère que vous sentez à l'aise, libre ici chez nous. Donc, bienvenue. À l'occasion de la rentrée scolaire, on voudrait bien lancer dans notre première série de prédications. On a trois prédications sur ce thème de « En Christ, ensemble, en avant ». Et on va regarder Jean chapitre 17, c'est une prière de Jésus dans la chambre haute. Et on va regarder ensemble. Ce soir, aussi à l'occasion de la rentrée scolaire, on voudrait juste bien passer plus de temps sur cet aspect de priorité. Je sais que vous entendez l'accent, vos anglo-saxons, trop business, trop McDo, blah, blah, blah. Mais je pense que les priorités sont quelque chose d'important pour nous-mêmes et aussi pour l'Église. Donc, on va regarder trois priorités pour nous ce soir sur ces premiers cinq versets. J'imagine que certains parmi vous, peut-être, vous êtes rentrés de vos vacances et peut-être, pas mal de Français, vous êtes venus d'une vacance et maintenant, vous êtes en train de réfléchir sur quoi?
Les prochaines vacances.
Yes, les prochaines vacances. Combien de soirs les enfants vont jouer le foot cette semaine ou la danse classique, peut-être? Combien de matins on va aller à la gym pour faire la musculation ou on va courir avec nos amis. Sans parler de horaire de métro, de boulot, de dodo, de temps avec les amis, Netflix, on ne peut pas oublier les réseaux sociaux, etc., etc. Et on peut arriver à l'église aussi avec nos propres idées. On a fait un sondage et c'était super juste de comprendre un peu plus vos avis, aussi vos retours, mais aussi c'est quelque chose que j'ai vécu depuis j'ai 6 ans quand je suis arrivé à l'église, qu'on a tous une idée de qu'est-ce que ça veut dire une église. L'église c'est centré sur la mission, n'est-ce pas? Non, l'église c'est centré sur les jeunes, c'est la génération pour aujourd'hui. L'église c'est centré pour les enfants, c'est l'église c'est centré pour la mission. Alors, j'ai déjà dit mission. J'aime bien la mission. Le service, la louange, la célébration. Et on peut ajouter plusieurs choses. On dit, l'église, c'est comme ça. Parce qu'on a vécu des choses, de bien choses dans une église. Ou peut-être, on a vécu des blessures aussi. Et on vient avec toutes nos expériences. Et donc, ça c'est pourquoi je pense que c'est très important à regarder un peu plus sur l'évangile de Jean, chapitre 17, où c'est Jésus qui est dans la chambre haute, il est avec ses disciples, c'est juste avant son arrestation, juste avant son crucifixion, avant sa résurrection, et il est en train de parler avec ses disciples pour expliquer, mis en lumière sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que va arriver. Et comment ça change ta vie, disciple, et aussi pour nous en tant qu'Église. Donc, dans cette prière de chapitre 17, Jésus a une préoccupation principale, une préoccupation, que le Père soit glorifié par l'accomplissement de son plan éternel. Que le Père soit glorifié par l'accomplissement de son plan éternel. Versets 1 à 5, Jésus prie que sa mission comme fils soit menée à bien. Donc, on va parler de « en Christ » ce soir. Ensuite, on va parler de versets 6 à 19. Il prie que ses apôtres restent fidèles afin qu'ils puissent accomplir leur mission. On va parler de « ensemble ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et la troisième chose, c'est « en avant ». Il prie pour tous ceux qui vont croire grâce au message des apôtres pour que le monde puisse croire à son tour. C'est versets 20 à 26. Donc, si le but de Jésus, c'est d'accomplir son plan éternel, le plan éternel pour Dieu, comment cela questionne-t-il nos priorités ce soir? On va lire versets 1 à 5. C'est page 702. Verset 1. Après sa parole, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Donc, le premier point, c'est en Christ, on peut expérimenter, on peut prendre plaisir avec notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Ça, c'est le premier point. Il n'y a que trois points. Donc, le mot gloire, c'est un peu difficile, je pense, pour nous aujourd'hui. On ne l'utilise pas. Mais quand tu regardes, le nom gloire peut signifier magnificence, grande beauté. Il y a des traductions qui utilisent lumière éclatante, la louange ou l'adoration. Quand on regarde ce mot « gloire » comme un verbe, ça peut être prendre grand plaisir à quelque chose. C'est ce qu'on voudrait voir. Et aussi des synonymes « renommée »,« célébrité »,« prestige »,« splendeur »,« majesté ». Et c'est encore plus intéressant. Qu'est-ce que c'est le contraire de gloire? C'est la honte et l'obscurité. Donc, comment on peut expérimenter la présence et prendre plaisir avec notre Dieu, avec notre Créateur? On voit verset 1. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a levé ses yeux vers la direction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lui connaît. Donc, il a levé ses yeux vers Dieu, vers le Créateur. Il a vu sa beauté, sa magnificence, tous ses aspects à notre Dieu. On voit aussi en verset 5, il commence avec la gloire et il termine avec la gloire, verset 1 et verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Attends, ça veut dire que Jésus, le Fils, Dieu et le Saint-Esprit sont tous ensemble avec une relation parfaite, même avant que le monde existe. Même avant. Ça veut dire qu'il a déjà vécu une expérience avec notre Dieu. Il a déjà expérimenté sa gloire et sa splendeur et sa majesté. Donc, il lève ses yeux vers la direction avec quelque chose qu'il a expérimenté. Et c'était bon. Si on voudrait grandir dans notre relation avec notre Dieu, on doit comprendre que la beauté de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit chercher au début. Quelquefois, dans le monde évangélique, on pense que c'est par le service qu'on peut grandir dans notre relation avec Dieu. Oui. Mais au début, c'est avec une présence avec notre Dieu. On prend des moments avec eux. Et on sait que ça marche comme ça, n'est-ce pas? On sait que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous passez du temps avec eux, et c'est juste, c'est super que vous êtes tous ensemble, il n'y a aucun mot, j'aime bien ça, aucun mot, et juste entendre le silence. Mais on sait que c'est bien. Et on expérimente la présence. Et c'est exactement ce que Jésus a expérimenté avant la création du monde, avant qu'ils ont fait des choses. Ils avaient expérimenté ça. Aussi, verset 5, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a demandé que Dieu révèle la gloire de lui pour glorifier son Père. Donc, il parle avec son Père pour dire, donne-moi ton gloire et comme ça, je peux refléter ta gloire. Ça, c'est vraiment notre prière aussi, n'est-ce pas? Dans ce vie, que les gens nous regardent et ils voient quelque chose de différent en nous. En Christ, notre adoration, notre louange, c'est l'essence, c'est le pétrole, c'est la puissance pour faire le service, pour faire le combat et aussi pour grandir dans nos relations avec les autres. Et le plus en plus qu'on peut comprendre notre identité avec notre Père en tant qu'enfant, on peut expérimenter son amour. On peut expérimenter l'amour aussi avec nos frères et sœurs. Parce qu'on a un bon Père et on a cette relation avec lui, malgré les circonstances. Jésus est dans la chambre haute, il y a des circonstances qui vont arriver, mais il cherche l'amour de son Père. Il cherche la gloire de son Père. L'amour de Dieu nous pousse à avancer pour suivre son plan, pour accomplir son plan, pour son royaume et pas pour nos petits royaumes, et pour sa gloire, et pas pour notre propre intérêt. Donc, il y a des périodes dans ma vie où la dernière chose que j'ai vue, juste avant que je me couchais, c'était ma femme, et après, c'était mon portable. Et le matin, c'était ma femme, et après, c'était le portable. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas la faute de mon portable, mais c'est une question de mon cœur, n'est-ce pas? Et souvent, je cherche le portable plus que la parole. Je cherche un confort dans mon portable. C'est juste une petite chose. C'est bête. C'est une bêtise de moi. Mais cet petit appareil, je vois cet petit appareil comme quelque chose qui peut me donner de direction. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé ses yeux vers la direction de Dieu. Et je vois ça tout. Chaque matin, quand je dépose mes enfants à lycée et collège, qu'est-ce que je vois, tous les ados? Levez vos yeux. Mais aussi, qu'est-ce que je vois quand je fais le shopping à Croix-Rousse? Des gens comme ça, des adultes. Je sais parce qu'une fois, j'ai presque décapité mon tête parce que je n'ai pas vu le toit de le marché et c'était pas bon. 2,5 m, c'est pas une bonne idée. Voilà. C'est pas la faute de le portable, mais ça révèle nos cœurs, n'est-ce pas? Et c'est pas par l'habitude, mais c'est une question de est-ce que je cherche l'amour de Dieu, est-ce que je cherche son gloire plus que cet appareil, ce portable? Dans la journée, est-ce que je prends des moments avant les différents rendez-vous, avant les différents Zoom et Visio pour écouter, attendre notre Dieu? Il veut passer du temps avec vous cette année. Levez vos yeux. Point 2. En Christ, le Fils de Dieu, il est notre substitut, il est notre rédempteur, et en lui, on reçoit la vie éternelle. Il y a pas mal de religions qui parlent d'un Jésus, une personne historique qui est venue, qui était sage, qui a partagé pas mal des histoires, il y avait des disciples. Il y a pas mal de différentes religions qui croient en ça. Mais qu'est-ce que c'est la différence en tant que nous? En tant que chrétien, on voit Jésus comme notre substitut. On voit Jésus comme notre rédempteur. Comme quelqu'un, ce n'est pas juste son sacrifice, ce n'est pas juste quelque chose qu'il a fait pour Dieu. Non, on a besoin de son substitut. On a besoin de quelqu'un pour nous racheter pour nos vies et pour nos péchés. Verset 2, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus parle de son autorité et de son pouvoir. Qui peut donner la vie éternelle? Que Jésus. Il dit tout ce que Dieu lui a donné avant même la création du monde. Donc, même avant la création du monde, Dieu a donné Jésus l'autorité pour donner cette vie éternelle. Ces personnes n'ont pas mérité leur salut. Ils n'ont pas gagné leur salut par leurs œuvres. Ils ont fait rien de tout pour gagner ce truc-là. Ils ont reçu et c'était donné par Jésus-Christ. C'est seulement Christ qui a le pouvoir et la puissance pour donner le salut pour nous. Verset 3, Jésus explique ce que c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire qu'on connaît notre Dieu. Si on connaît que Jésus est notre rédempteur, on connaît Dieu, notre Dieu chrétien, notre Dieu parfait. Maintenant, en Christ, grâce à son substitution et son sacrifice pour nos fautes, notre relation avec Dieu est rétablie à travers le sacrifice de notre Seigneur, Jésus-Christ, et par notre repentance et notre foi en lui. En Christ, aujourd'hui, on peut goûter un avant-goût, aujourd'hui, avec qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle. Cette éternité, on peut sentir ça même aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre. On peut sentir maintenant, jusque pour toute l'éternité, une relation avec notre Dieu. En plus, grâce à Jésus, on n'a plus besoin de jouer cache-cache. J'aime bien cette phrase cache-cache. Mais dans le jardin, qu'est-ce qui se passait avec les humains? Ils ont joué cache-cache parce qu'ils ont péché contre leur Dieu et ils avaient de honte, ils avaient de peur et ils ont joué cache-cache. Et souvent, même nous, on ne croit pas que Jésus est notre substitut et on joue cache-cache avec notre Dieu. Est-ce que tu galères avec le mensonge, la convoitise, l'impatience, l'addiction, le fait de trop bosser, de trop parler? Est-ce que tu ressens parfois des émotions comme la colère, l'anxiété, la peur, l'envie, l'insatisfaction, l'indifférence? Est-ce que tu as des situations difficiles avec tes relations, avec le travail, avec les finances, peut-être même avec tes enfants? Est-ce que tu as peut-être une peur, une crainte, quelque chose qui t'empêche d'avancer, peur de rejet, peur d'échouer, peur de la mort? Écoute bien, Église. En Christ, grâce à la foi, à la repentance, à notre repentance et foi en lui, on a une vie éternelle et on est complètement pardonné. Hier, aujourd'hui, demain, on est complètement pardonné. Donc quand on joue cache-cache quelquefois avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Pourquoi? Je pense, oui, il y a des choses dans notre culture, mais la vulnérabilité, c'est aussi une partie de est-ce que je crois que je suis vraiment pardonné? Ou est-ce que je pense je vais recevoir le jugement de quelqu'un d'autre? Si je suis bien réconcilié en Christ, je peux partager des choses parce que je sais que je suis complètement pardonné. Il n'y a rien d'autre que je dois faire. Je peux partager des choses dans l'église de maison. Ça, c'est des choses qu'on va faire semaine prochaine, si ça vous intéresse. Mais aussi, on a des groupes de croissance. C'est moi avec deux, trois gars ou c'est une femme avec deux, trois femmes. Et vous partagez vos vies. Comment vous partagez vos vies? Vous priez ensemble, vous partagez la vie et vous lisez la parole. C'est trois choses. C'est très simple, mais c'est très biblique. Et la même façon qu'on partage nos faiblesses avec notre Dieu, on peut partager nos faiblesses avec nos frères et sœurs. Parce qu'on a le même Père. Troisième point. En Christ, on peut aussi voir le Saint-Esprit comme puissance pour glorifier Dieu par l'accomplissement de son plan éternel. Donc, comme j'ai dit, Jésus est dans la chambre haute. On ne voit pas vraiment le Saint-Esprit dans ce texte-là, mais je vais expliquer pourquoi. Jésus a accompli sa tâche. Et même dans ces versets 1 à 5, ce que j'entends quand il prie, c'est comme le match est déjà terminé. On a gagné. Encore, C'est avant son arrestation, c'est avant son crucifixion, c'est avant sa résurrection, même c'est avant son ascension. Mais il part comme c'est fait, on a gagné. Est-ce qu'on vit comme ça dans le Saint-Esprit? On a gagné. Ça, c'est vraiment ce qu'il a fait. Un mois plus tard, qu'est-ce que Jésus dit avec ses disciples? Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans quelques textes, il utilise le mot « défendeur ». Le Saint-Esprit est comme notre défendeur. Et j'aime bien cette idée. Est-ce que c'est chouette si on a un bon défendeur, si on a déjà marqué un but? C'est bon dans ce match de foot, n'est-ce pas? Oui, on peut marquer plus de buts ou on a besoin de bonne défense. Et on a un bon défendeur en Saint-Esprit qui nous a aidés à persévérer. Il nous a aidés à être fidèles. Il nous a aidés à avoir des forces et des puissances quand on est hors de nos limites. Ça, c'est le Saint-Esprit et c'est la chose que Jésus nous a envoyé. Pourquoi? Pour accomplir son plan éternel, pour que toutes les nations puissent le connaître et apporter honneur et gloire à notre Dieu. En Christ, on peut expérimenter un Saint-Esprit qui est notre défendeur et que même notre foi ne réside pas dans nos dons, dans nos compétences. Je vois plus en plus qu'on a des limites. Et c'est dans ces limites que Dieu veut bien envoyer son Saint-Esprit pour que vous expérimentez sa beauté, sa splendeur et sa majesté. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à l'éternité. On peut expérimenter ça aujourd'hui. Et je trouve souvent, quand je vois des missionnaires et quand je vois des autres personnes qui ont souffert beaucoup, que souvent, ils ont expérimenté quelque chose que je n'ai pas encore vécu. Parce qu'ils ont, vécu des choses hors de leurs limites. Et c'est seulement Jésus qui peut les amener jusqu'à la fin. Et c'est tellement de choses qu'on voudrait voir. Même avec nos jeunesses, je vais dire notre jeunesse, est-ce qu'on peut expérimenter ça cette année? Cette beauté dans son esprit. Dans cette prière de chapitre 17, Jésus a une préoccupation principale, que le Père soit glorifié et de l'accomplissement de son plan éternel. Jésus prie pour que sa mission confiée soit menée à bien. Et plutôt dans l'évangile de Jean, Jésus a des paroles très très dures envers le responsable de l'Église. Jean chapitre 12, verset 43. Il a dit, « En effet, ils ont aimé la gloire qui vient des humains plus que la gloire de Dieu. Ils ont aimé la gloire qui vient des humains plus que la gloire de Dieu. » Est-ce que c'est toi ce soir? Est-ce que tu cherches la gloire plutôt vers les humains que notre Dieu, vers son direction? Comment tes priorités reflètent la gloire de Dieu, reflètent même son préoccupation principale pour voir l'accomplissement de son plan éternel? Il y a un pasteur, Jack Miller, j'ai essayé de faire la traduction, ce n'est pas la meilleure traduction, mais je vais essayer. Il dit, courage, courage mes frères, mes sœurs, courage, tu es pire que tu penses. Tes échecs et tes défauts sont encore plus profonds que tu peux imaginer. Ta capacité à servir Dieu dans sa mission est plus limitée que tu peux croire. Ton égoïsme est plus fort et que tu réalises. C'est encourageant, n'est-ce pas? Mais, courage, l'évangile est bien plus grand que tu peux imaginer. Dieu n'est pas limité par tes faiblesses, toutes tes faiblesses. Dieu aime à servir des faibles, des imparfaits, de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Dieu aime vraiment déverser son esprit sur ceux qui sont humbles et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Oh, je prie ça, ça c'est notre prière cette année. On va écouter ce soir et aussi dans les prochaines deux prédications des témoignages qui partagent ce thème ce soir en Christ. Zachary? Oui.
Bonjour. Donc Daniel m'a demandé de partager un petit témoignage sur ce que « en Christ » voulait dire pour moi et comment je l'ai vécu ces dernières années. Pour commencer, je voulais vous demander quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes du type plutôt contrôlant ? Vous aimez planifier votre vie, vous sécuriser avec votre argent, vos économies ou vos relations ? Ou est-ce que vous êtes plutôt adaptable et flexible ? Flexible, on prend la vie comme elle vient. Si vous êtes dans ce deuxième cas, je vous admire beaucoup, parce que moi, je suis dans le premier cas. J'aime pas l'incertitude et l'inconnu, c'est source de beaucoup de stress pour moi. Je suis déjà émue parce que je sais ce qui vient. Donc. Un exemple très révélateur de ça, c'est un jour avec Nico, mon mari. On est en 2021 ou 2022, je ne sais plus, et on décide de créer un fichier Excel, le fameux fichier. Et sur ce fichier, on prévoit nos 3 années futures. Comment elles vont se passer, tout ce qui va se passer, les événements, les finances, comment on va gérer ça. C'est trop génial, j'adore, on planifie. Avec le recul, ça paraît un peu fou, mais à ce moment-là, c'est super sécurisant. On se dit qu'on aura assez d'argent, que ça va être génial. Et ça, même si vous n'avez jamais fait un fichier Excel, je suis sûre que vous pouvez comprendre l'idée de se sécuriser. Et bien sûr, Dieu là-dedans, on ne lui a pas dit comme ça, mais avec le recul, ça voulait un peu dire « Voilà nos projets, merci d'avance. » Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, évidemment. Et ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est le mur qu'on allait se prendre, mon mari et moi, dans les années qui suivraient. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que Nico allait tomber en dépression il y a 2 ans et demi maintenant, que de mon côté, j'allais m'épuiser dans mon travail, que j'allais devoir réajuster certaines relations compliquées, et par-dessus tout ça, connaître ensemble l'infertilité. Bref, on s'est vraiment pris un mur. Il y a une des valeurs qui me tient à cœur, c'est l'intégrité. C'est aligner ce qu'on vit vraiment sur ce qu'on croit profondément, et que ce soit en Dieu ou autre chose d'ailleurs. En tout cas, je recherche ça dans ma vie. Et je crois en un Dieu souverain sur toute chose, tout puissant, juste, plein de grâce, de bonté. Et dans les épreuves qui sont arrivées assez soudainement, je me suis rendu compte que c'était dur à vivre. Que j'arrivais pas à appliquer ça à ma vie. Parce que si Dieu est souverain, pourquoi je veux t'en garder le contrôle ? Si Dieu est bon, pourquoi d'un coup il ne le serait plus quand je vais mal ? Et je me suis rendu compte que jusqu'à présent, j'avais placé ma sécurité dans mes économies financières, dans mes plans, dans mes forces et dans les forces de mon mari, qui allait toujours bien. Et quand il a fallu traverser ce mur, ben, je me suis rappelé ce que j'avais demandé à Dieu quelques années avant. Je lui avais demandé d'être aux commandes de ma vie. Et dans ce que je crois, il y a aussi le fait que Dieu répond aux prières selon sa volonté. Alors pourquoi je suis étonnée quand il le fait ? Et que ma vie, elle prend un tournant que je n'imaginais pas. Donc, pour moi, vivre en Christ, c'est vivre la dépendance à lui. Il y a des moments, oui, je confesse, j'ai pu penser que je n'avais pas besoin de Christ parce que ça va bien. Mais je me trompais profondément et j'avais besoin qu'il transforme ma façon de penser, de voir les choses et qu'il oriente mes désirs sur les siens. Il y a un verset très connu qui a accroché chez moi, mais qui a pris un sens tout nouveau ces dernières années. C'est le verset... Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fière de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je savais que j'allais pleurer. Franchement, c'est dur à vivre, parce que j'aime vraiment pas être faible, et encore moins en être fière. Mais c'est vrai que ce que j'ai expérimenté, c'est que j'ai vraiment crié à l'aide à Dieu pour avoir sa force. Et cette dernière année, Dieu n'a pas enlevé les souffrances ou répondu positivement à nos demandes, à toutes nos demandes. Mais dans sa grâce, ce qu'il m'a donné, c'est du temps. Du temps, parce que j'étais au chômage, donc du temps pour pleurer, pour faire des deuils. Et j'avais besoin de ça aussi, parce qu'il y a un temps pour tout. Et moi, dans mon temps libre, je voulais faire plein de choses. Je voulais me former, je voulais partir, voyager. Enfin, voilà, j'avais plein de projets. Mais ce qu'il m'a donné, c'est des épaules sur lesquelles m'appuyer, des personnes dans cette église avec qui pleurer. Il m'a appris à m'attendre à lui chaque matin, à lui demander ses forces pour chaque jour, quand physiquement ou moralement, j'avais besoin de lui. Et son amour, ses soins quotidiens, ça oui, il a donné. Et donc, si vous traversez des souffrances, s'il vous plaît, demandez à Dieu ses forces et restez pas seul. Alors, je comprends pas toujours certaines choses, pourquoi on a dû et pourquoi on doit traverser tout ça de cette manière. Et je crois que c'est saint Augustin qui disait « Si tu comprenais, ce ne serait pas Dieu ». Et il ne fait pas toujours comme on voudrait, mais ce qu'il promet, c'est qu'il est là à chaque instant, qu'il donne son secours et sa paix, même si on a l'impression qu'il n'entend pas nos prières et que le ciel il est fermé pour nous. Et il promet qu'il nous prépare d'avance des bonnes œuvres pour qu'on les pratique, même si on ne sait pas lesquelles encore. Et pour terminer, je voulais juste vous lire une partie du psaume 66, version Colombe. Ça parle des épreuves et des bénédictions, et ça m'a beaucoup parlé. Et honnêtement, je pense que je ne suis pas sortie de la première partie totalement, mais en tout cas, ça m'encourage à espérer et à tenir ferme. Donc c'est une partie du psaume 66, verset 10. « Car tu nous as sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet, tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. » Et la fin, c'est « Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance, loin de moi. »
Merci, Karine. C'est pas facile à partager devant vous, mais c'est quelque chose d'important pour nous d'entendre comment Dieu travaille dans chacun de nos vies. Ce soir, si vous êtes tous bienvenus, semaine prochaine, il y a une église de maison, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, peut-être ça c'est votre première fois ici, Karine, si vous êtes une femme, vous pouvez parler avec Karine. On a des groupes de couvertes où vous pouvez demander des questions sur la foi, sur qui est Dieu, comment ça marche. Si vous êtes un homme, il y a JD. Vous pouvez demander JD. Ils sont là, ils sont partie de notre équipe. Aussi, si vous voulez aller plus loin, si vous n'êtes pas encore dans un groupe de croissance et vous n'avez pas encore rempli toutes tes soirées avec tes priorités, et vous cherchez un groupe de croissance, encore, vous pouvez parler avec JD ou peut-être Christine, Sylvia et aussi Karine. Et aussi, si vous cherchez juste l'accompagnement spirituel, on a des personnes là, vous pouvez parler avec moi et on peut trouver la meilleure personne pour vous. Voilà. Donc, j'ai parlé, je pense que c'était il y a 2 semaines, quelque chose que j'ai lu avec la préparation de cette prédication. Et j'ai vu bien que juste on peut lire en voix haute, tous ensemble. Yes. Tous ensemble. Sois Seigneur en nous, pour nous fortifier. Hors de nous, au-dessus, pour nous abriter. Au-dessus, pour nous affirmer. Devant nous, pour nous guider. Derrière nous, pour nous pousser en avant. Tout autour de nous, pour nous protéger. Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On voudrait bien prier tous ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour la façon que tu parles par les témoignages,
par ta parole, par la relation dans notre église avec les frères et sœurs. Merci pour ces chants et pour la louange qu'on peut vraiment expérimenter un petit avant-goût de tout ce qu'on va vivre en éternité avec toi. Amen.